Voix Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 12 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Gabon, la société civile demande une enquête internationale sur les massacres post-électoraux.
Dialogue politique en RDC, l'opposition suspend sa participation en attendant une entente sur la séquence des élections.
Libye, le gouvernement d'union soutenu par l'ONU, perd un troisième port pétrolier.
Syrie, une trêve entre régime syrien et rebelles est entrée en vigueur en début de soirée. Accord négocié par les États-Unis et la Russie.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Gabon, le collectif d'associations européennes et africaines Tournons la page a demandé une enquête internationale sur la répression militaire et policière qui a suivi les violences post-électorales. Bagessikoura, ce collectif parle de massacres.
Le collectif d'associations réclame une enquête internationale sur la répression des manifestations ayant suivi la proclamation de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 27 août. Cette répression aurait fait de nombreuses victimes, affirme le collectif dans un communiqué cité par l'AFP. Selon ces associations, beaucoup de familles sont encore à la recherche de leurs membres disparus depuis le 31 août, jour de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle accordant la victoire au président Bongo. Des centaines de manifestants de l'opposition avaient manifesté dans les rues et au siège de campagne de Jinping. L'assaut contre le QG de Jinping fin août par les forces de l'ordre aurait fait 17 victimes selon l'opposition. Mais selon le ministre gabonais de l'Intérieur, l'ensemble des violences post-électorales ont fait 3 morts.
Et c'est dans ce contexte qu'un reporter du Monde diplomatique a été refoulé samedi à l'aéroport de Libreville, faute de visa, et plusieurs autres journalistes français n'ont pu obtenir d'autorisation pour se rendre au Gabon, théâtre de violentes émeutes post-électorales, ont rapporté aujourd'hui plusieurs médias français.
Et dialogue politique en République démocratique du Congo, l'opposition suspend sa participation aux travaux en commission. Raison avancée, un désaccord avec la majorité présidentielle dans la séquence des élections. Dans sa déclaration ce lundi à Kinshasa, le co-modérateur Vital Kamerhe a annoncé que sa délégation ne reviendra au dialogue que si la priorité est donnée à la présidentielle, comme le veut la résolution 2277 de l'ONU.
Le 19 septembre, on devrait convoquer le scrutin présidentiel. Et nous avons dit qu'il ne faut pas attendre, entrer dans l'impasse aux conséquences imprévisibles. Quand nous avons décidé de venir ici. Mais nous avons nos lignes rouges. Nous les avions rappelées, le respect de la Constitution. Nous avons dit, ici nous venons pour l'alternance au pouvoir. Le temps que nous allons passer pour le calendrier, ça doit être pour les besoins de tenir en priorité la présidentielle. Bien entendu, les amis de la majorité, j'allais dire, viennent nous proposer qu'on commence par les élections locales. Mais avec la situation de la décentralisation actuellement, où il y a des groupements fictifs, des groupements sans population, des groupements qui se chevauchent. Mais ça va faire combien d'années pour qu'on remette de l'ordre? Nous avons compris que c'est une façon de nous amener dans un chemin sans issue. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp.
Vital Kamerhe était au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les Nations Unies s'inquiètent de l'afflux de combattants sud-soudanais dans l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO dit avoir porté secours à 634 ressortissants sud-soudanais présents dans le parc de la Garamba. La situation qui pourrait devenir une menace pour la paix et la stabilité de cette région ébranlée par les conflits armés depuis plus de 20 ans.
Zambie, la Cour constitutionnelle rejette une nouvelle tentative de l'opposition pour retarder l'investiture du président Edgar Lungu demain. Hakainde Hichilema accuse de fraude son rival qu'il a devancé d'à peine 100 000 voix.
Trouble politique en Éthiopie, deux dirigeants du parti démocratique Agao ont été arrêtés. Le président de cette formation a été inculpé d'incitation publique contre le gouvernement, indique le parti. Les Agao se sont jusqu'ici tenus à l'écart de la contestation antigouvernementale qui agite les Oromo et Amara, les deux ethnies les plus importantes d'Éthiopie, avec environ 60% de la population.
En Afrique du Sud, Jacob Zuma a remboursé à l'État près de 500 000 euros. Le président avait dépensé de l'argent public pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée, à l'origine d'une vive controverse dans le pays.
Le gouvernement d'Union en Libye, soutenu par l'ONU, a perdu lundi le contrôle d'un troisième terminal pétrolier, se montrant incapable de stopper l'offensive lancée par les autorités rivales basées à Tobrouk, dans l'Est. Précision, Tatiana Mosso.
Le pouvoir basé à Tripoli a échoué à défendre les principaux ports permettant au pays d'exporter l'or noir, sa principale richesse économique. Les trois ports du croissant pétrolier ont été conquis par les forces loyales au général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'armée, lié au gouvernement non reconnu basé dans l'est du pays. Le GNA a dénoncé ces attaques, estimant qu'elles étaient contraires au processus de réconciliation. Ce revers risque d'affaiblir à l'heure où ces forces luttent pour reprendre la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique. Une bataille qui s'éternise depuis 4 mois. Si la Libye dispose des plus importantes réserves pétrolières d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils, elle est paradoxalement le membre de l'Organisation des États exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui produit le moins. L'incapacité de la Libye à sortir de la crise inquiète fortement les pays européens, confrontés à l'afflux des migrants traversant la Méditerranée depuis son littoral.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise syrienne, le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la Russie est entré en vigueur ce lundi. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
La trêve entre le régime syrien et les rebelles a commencé à 19h, heure locale, et est prévue pour 48 heures. Si elle tient, elle pourrait être renouvelée pour 48 heures à nouveau. L'accord exclut le groupe État islamique et le front Fateh al-Sham, ancien front al-Nosra. Il prévoit le gel des combats entre troupes du régime et groupes rebelles, ainsi qu'une coopération militaire contre les djihadistes. L'accord appelle également les deux parties à cesser toutes les attaques, y compris les bombardements aériens, et à éviter toute tentative d'avancée territoriale aux dépens de l'autre partie, tout en lançant un appel à un accès humanitaire à toutes les régions, y compris Alep. Et si la trêve tient une semaine, les États-Unis et la Russie créeront un centre conjoint et mèneront des frappes militaires pour vaincre les groupes État islamique et Fateh al-Sham.
Près de 50 personnes ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée dans l'est de la Turquie. Les autorités pointent du doigt les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Deux des blessés sont dans un état grave, selon un responsable cité par l'AFP. Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat.
Nouveau signe de tension dans les rapports entre Manille et Washington. Le président Rodrigo Duterte a ordonné à tous les conseillers des forces spéciales américaines qui assistent les troupes philippines combattant les insurgés indépendantistes musulmans dans le sud de l'archipel de quitter la zone. Cependant, le dirigeant philippin n'a pas fixé un délai pour le départ des soldats américains. Aucune réaction des États-Unis jusqu'à présent.
Le Fonds monétaire international devrait bientôt consentir de nouveaux crédits à l'Ukraine, mais sans l'aval de la Russie. Moscou a en effet averti qu'il votera contre la reprise de l'aide du FMI au gouvernement ukrainien. Raison évoquée par la Russie, les autorités ukrainiennes refusent de rembourser un prêt de 3 milliards de dollars consenti juste avant la chute du président Viktor Yanukovych. Le fonds avait approuvé un plan de 17,5 milliards de dollars pour Kiev en avril 2015, mais il a été par la suite suspendu.
Paris vit encore sous la menace terroriste et les autorités restent très vigilantes. Elles ont arrêté et présenté à la justice trois femmes accusées d'implication dans un projet d'attentat déjoué. Un adolescent de 15 ans avait également été présenté au juge ce lundi, deux jours après son arrestation. En 2015, 238 personnes sont mortes dans des attentats terroristes à Paris.
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'accusent mutuellement de vouloir faire un nettoyage ethnique. Netanyahou avait affirmé vendredi dans une vidéo que les Palestiniens refusaient la présence de Juifs dans le futur État auquel ils aspirent. Prenant la parole ce lundi lors de la fête musulmane du sacrifice, Abu Mazen a accusé les Israéliens de pousser toujours plus loin la colonisation, les atteintes aux lieux saints, le nettoyage ethnique et les assassinats délibérés.
Il y a 3 mois, David Cameron abandonnait son poste de Premier ministre de la Grande-Bretagne suite à sa défaite au référendum sur le Brexit. Aujourd'hui, il s'est retiré pour de bon de la scène politique, quittant sans délai son siège à la Chambre des communes. À mes yeux, dans le monde politique aujourd'hui, et vu les circonstances de ma démission, il n'est pas vraiment possible d'être un député efficace lorsqu'on a été Premier ministre, a déclaré M. Cameron dans un entretien télévisé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les ministres de la Justice de l'Union africaine ont approuvé vendredi à Lomé la charte sur la sécurité et la sûreté maritime. Celle-ci devra être adoptée le 15 octobre lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. La société AMR, Alliance Minière Responsable, a distribué des kits de panneaux solaires dans 5 villages de la préfecture de Boké en Guinée, où elle détient un permis de recherche. Le tarif de la charge sera de 1 000 francs guinéens environ. Les sommes encaissées seront gérées par les communautés elles-mêmes. AMR souhaite étendre ce mécanisme à d'autres villages. Royal Air Maroc opère des vols directs Washington-Casablanca depuis le 8 septembre. Cette liaison de 3 fréquences hebdomadaires est la 3e nouvelle destination long courrier après celle de Rio et Nairobi. Elle s'ajoute ainsi aux lignes Casablanca-New York et Montréal.
Comme d'habitude, ce thème annonce la page sport, présentée ce soir par Tatiana Mosso. Salut Tati.
Bonsoir Gabi.
Alors, paralympique pour commencer. Un Éthiopien proteste contre son gouvernement et est rappelé à l'ordre.
Effectivement, l'athlète éthiopien Tamirou Demissé, vainqueur de la médaille d'argent du 1500 mètres des Jeux paralympiques dimanche, a été sévèrement rappelé à l'ordre par le comité organisateur après avoir fait un geste de protestation contre son gouvernement. Ce geste utilisé lors des récentes et importantes manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées en Éthiopie fait écho à celui effectué en août dernier par son compatriote marathonien Feissa Lilesa.
Et il faut dire que le Comité paralympique international a qualifié ce geste de hors sujet. Olympisme toujours et l'affaire du trafic de billets.
Oui, le président du Comité olympique irlandais Patrick Haike s'est dit complètement innocent des accusations de revente illégale des billets des JO 2016 portées contre lui par la justice brésilienne. Il est accusé d'avoir participé à un réseau de revente illégale de billets des JO qui aurait généré une recette d'au moins 2,8 millions d'euros selon la police brésilienne. Après son arrestation, il avait annoncé sa démission temporaire de tous ses mandats au sein du mouvement olympique. Le gouvernement irlandais a lancé une enquête de son côté.
Après Tokyo en 2020, Tatiana, quelle ville organisera les Jeux Olympiques d'été 2024 ?
Alors la réponse tombera exactement dans un an, le 13 septembre 2017 à Lima, ce qui laisse un peu de temps aux 4 villes en lice, Budapest, Los Angeles, Paris et Rome pour convaincre. Durant ces 12 derniers mois, les 4 villes vont finaliser leur projet et recevoir la visite de la commission d'évaluation de comité international. Les experts du CIO, emmenés par l'ancien sprinter namibien Franky Frederiks, remettront ensuite en juillet 2017 leurs conclusions à la centaine de membres qui se prononceront 2 mois plus tard.
Tennis, US Open, tournoi de Flushing Meadows, Novak Djokovic redevient simple mortel.
Et oui, pendant les 6 premiers mois de 2016, le Serbe a fait la loi sur le circuit masculin, mais cette implacable machine à gagner a ensuite connu de sérieux ratés à Wimbledon d'abord, à Rio ensuite, et pour finir sur l'US Open dimanche. Alors devant 25 000 spectateurs, le numéro 1 mondial n'a été que l'ombre de lui-même face à Stan Wawrinka. Il a fait illusion pendant une manche, mais s'est rapidement trouvé à cours de solution face au Suisse, qui s'est offert son 3e titre du Grand Chelem en 4-7, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3.
Ballon rond, Ligue des champions, le retour de la piste aux étoiles.
Et oui, la Ligue des champions débute mardi à 19h45 GMT sur tous les terrains d'Europe, avec une première journée marquée par le choc entre deux outsiders qui se cherchent, Paris, Saint-Germain et Arsenal, et par l'entrée en lice de l'incontournable Barça contre le Celtic de retour en C1.
Et décès de l'ex-international burkinabé Ben Idrissa Dermé en Corse.
Effectivement, et on développera ce décès dans Sport Ama tout à l'heure sur notre antenne.
Ce sera à 19h, temps universel avec Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour, première escale, Bamako.
Au Mali, donc, comme dans les autres communautés musulmanes, on a célébré ce lundi 12 septembre la fête de la Tabaski ou fête des moutons. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la prière à la grande mosquée de Bamako, a appelé tous les Maliens à s'unir pour sortir le pays de la crise actuelle. Dans la région du Nord, des prières ont été faites sur les places publiques à Gao et Tombouctou sans aucun incident. Le reportage de Kassim Traoré.
C'est à la grande mosquée de Bamako que le président Ibeka a participé à la fête de l'Aïd el-Kébir, fête des Tabaski ou des moutons. La prière était dirigée par l'imam Mamadou Dikoke Kali. Dans son serment, il a parlé de paix, de cohésion sociale, mais surtout de l'importance du sacrifice du prophète Abraham. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Et je souhaite qu'elle soit pour nous l'annonce d'une année heureuse. Nous sommes en hivernage, nous avons eu des pluies certaines bienheureuses et que notre peuple ne soit plus hanté par le spectre de la faim en quelque endroit qu'il se trouve. C'est le vœu que je fais aujourd'hui pour sortir de cette prière de l'Aïd el-Adha. Et ensemble, unis, retrouver, rassembler de nouveau, ce peuple est promis au plus bel avenir.
À Tombouctou, la place Sarkila a refusé du monde lors de la prière dirigée par l'imam de la mosquée Djingaribère, Abdrahaman Ben Essaouti.
On ne s'y attendait pas, ça a été vraiment un exemple particulier cette année. La fête s'est très bien passée et les gens étaient vraiment à l'aise.
Je saisis l'occasion pour saluer les efforts des forces armées de sécurité nationale, des forces internationales, des forces de la France, tous les efforts qu'elles fournissent dans le cadre de la sécurisation des populations et de leurs biens. Tombouctou est aujourd'hui, je dirais, la ville la plus stable des régions du Nord, grâce aux populations.
Dans la cité des Askia, malgré les attaques contre les cars et les vols à main armée, dans les alentours de la ville, la fête de moutons a été bien fêtée.
Les populations sont sorties massivement pour venir accomplir leurs devoirs religieux. Je demande à tout le monde de œuvrer pour la paix, mettre à côté certaines divergences, mais aussi même de la politique.
Nous avons retrouvé la paix et maintenant nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour qu'elle se consolide. C'est vrai que dans notre région, ces dernières semaines, il y a eu une certaine recrudescence de l'insécurité. Mais les dispositions sont en train d'être prises avec nos forces de défense et de sécurité, de concert avec leurs compagnons d'armes de l'amunissement et de Barkhane pour que la paix revienne et que l'insécurité diminue beaucoup dans la région.
Puisqu'il s'agit de la fête des moutons, les médecins veillent au grain avec des conseils pratiques afin que les gens puissent éviter l'utilisation abusive de la viande. Docteur Touré Fadi Cissé, nutritionniste.
Il ne faut pas que vous exagérez dans la consommation parce que ça peut nuire. L'organisme ne prend que ce dont il a besoin. Le besoin de nutriments dont l'organisme a besoin, c'est quotidiennement qu'on peut lui fournir ça. Ce n'est pas en un seul jour. La consommation abusive de la graisse nuit vraiment à la santé. Il est surtout conseillé de prendre du chaud. C'est avec le chaud que ça peut se dissoudre et puis laisser le sang circuler normalement. Si jamais on se permet de prendre chaque fois de l'eau fraîche après la consommation de la graisse, ça c'est pour favoriser encore le dépôt de graisse. Et là, ça va amener une restriction au niveau des vaisseaux.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Crise financière au Tchad. Le gouvernement a pris des mesures drastiques pour renflouer les caisses de l'État. Des mesures qui tendent à réduire le train de vie de l'État et incluent une restructuration de certaines institutions étatiques considérées comme budgétivores. Des réactions avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Ces mesures visent à réduire de 50% les indemnités des députés à l'Assemblée nationale. Les décrétés, quant à eux, verront leur indemnité réduite de 80%. Pour Younous Mahadir, président du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et sanitaires et vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, ces mesures inventées par le gouvernement vont provoquer dans les jours à venir des tensions sociales qui seront difficiles à maîtriser.
Dans ce pays, l'argent est là, la douane et les fiscalités. Et les impôts. Les gens qui gèrent ça, là, mettent de l'argent dans leur poche. On va arriver à nous amputer nos primes, nos indemnités et tout. Mais ils ne savent pas que ça, ce sont des acquis. Tant qu'on ne partira pas profondément dans ces recherches de collecte des sous, nous, on ne va pas accepter qu'on touche à nos acquis.
Mahamat Nour Ibedou, inspecteur de trésor, propose une autre alternative au gouvernement pour juguler cette crise.
Nous avions essayé de faire un peu de simulation. On s'est retrouvé avec 1/8 de dépenses. Il faudrait mener une vérification normale de tous les biens. Parce qu'ils sont connus, les gens qui ont détourné. Rapatrier tous les fonds stockés à l'étranger, dans les paradis fiscaux. Il faudrait qu'on démantèle le réseau laissé par M. Salahi Déby, le petit frère du président. Parce qu'avant l'avènement du pétrole, la douane faisait 70% de nos recettes. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, elle n'en fasse pas.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, trouve cette décision injuste et dénonce la manière avec laquelle cette mesure a été prise.
Il est quand même offusquant que pendant les périodes glorieuses, c'est une infime partie de privilégiés indus qui profitent de la grosse manne sans souci du lendemain. Et au moment de faire face donc aux casses, l'on demande que la contribution sacrificielle soit beaucoup plus générale. Je pense que à ce niveau, il y a une certaine injustice. Il y a une procédure pour adopter de telles mesures. On ne peut pas simplement consulter de manière expéditive le président de l'Assemblée nationale ou encore les membres du bureau de l'Assemblée pour prendre une décision aussi importante qui concerne le budget de l'État.
Le secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad section de N'Djamena, Gartoïde Blaise, ne partage pas l'avis du député.
Moi, j'encourage le gouvernement uniquement à réduire même de 100% les indemnités des députés, mais pas les décrétés qui sont des fonctionnaires de l'État. Parce que ce sont ces députés qui ont accompagné le régime dans les votes des décisions impopulaires.
André Kodma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Syrie, une trêve de 48 heures est entrée en vigueur à 16 heures temps universel, alors que l'opposition et la rébellion n'ont pas encore donné leur accord officiel. Énième effort pour mettre un terme à 5 années d'un conflit dévastateur. Claire Morin-Gibour rejoint Thomas Pierret, auteur de plusieurs ouvrages sur la Syrie, pour lui demander ses impressions sur ce nouveau cessez-le-feu en Syrie.
Beaucoup de scepticisme, pour être honnête, pour deux raisons. La première, c'est que le cessez-le-feu, comme le précédent proclamé en février, ne prévoit pas de mécanisme clair pour faire observer donc le cessez-le-feu par les parties en présence et particulièrement par le régime syrien qui, on s'en souvient, en février dernier, n'avait jamais mis en œuvre le cessez-le-feu dans certaines régions. Donc il l'avait observé dans certaines provinces, mais dans d'autres, comme à Damas ou à Latakia, c'était resté lettre morte. Et il n'y avait aucun mécanisme prévu dans cet accord pour le faire respecter. On n'a pas l'impression que les choses soient différentes cette fois-ci, donc c'est une première raison d'être sceptique. La deuxième, c'est dans la conception plus globale de l'accord, alors qu'il n'est pas qu'un accord de cessez-le-feu, puisqu'il est aussi question d'opérations militaires communes russo-américaines, non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le front Fatah al-Sham, ex-front al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui est une des principales factions combattant le régime syrien. Et alors là, on a un problème qui est qu'on demande dans l'accord aux autres groupes rebelles de se retirer des zones où combat le Fatah al-Sham, et avec ce risque qui est que si ces groupes rebelles se séparent de cette organisation, que cette dernière est bombardée par les Américains et les Russes et qu'elle est affaiblie, cela crée un vide qui serait assez certainement rempli par les forces du régime. Donc on demanderait finalement aux rebelles d'abandonner de nouveaux territoires au régime alors que celui-ci est plutôt sur l'offensive actuellement.
Sans oublier la fracassante sortie médiatique de Bachar el-Assad qui dit qu'il veut récupérer la majorité du territoire.
Effectivement, donc évidemment le signe qui est envoyé ici n'est pas très positif. Et encore une fois, il n'y n'y a aucun mécanisme qui soit prévu pour, je dirais, mettre un frein à ses ambitions. Alors, a priori, il semblerait qu'il y ait une clause dans l'accord qui affirme que le régime syrien ne doit pas exploiter l'affaiblissement de Fatah al-Sham pour reprendre des territoires. Le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucun mécanisme tangible pour empêcher ça. Donc, finalement, la bonne application de l'accord repose, un, sur la bonne volonté russe de limiter les ambitions de leur allié syrien. On a quand même le droit d'être extrêmement sceptique par rapport à ça. Et d'autre part, ça pourrait reposer sur des lignes rouges américaines où on en connaît la crédibilité. Et les Américains ne semblent pas décider à, je dirais, à taper du poing sur la table ou à sanctionner le régime syrien en cas de non-observation de l'accord. Donc tout cela fait qu'on peut être extrêmement sceptique par rapport à cet accord de cessez-le-feu.
Thomas Pierret, maître de conférence à l'université d'Edinburgh et spécialiste de la Syrie.
Présidentielle américaine, le médecin de Hillary Clinton a confirmé qu'elle souffrait d'une pneumonie. Une annonce qui a été faite après un malaise qui a contraint la candidate démocrate de quitter prématurément hier la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre à New York. Ses activités ont été annulées pour aujourd'hui et demain. Quant à son rival républicain, Donald Trump, il a surpris plus d'un en refusant d'attaquer Mme Clinton sur son état de santé. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le professeur Amadou Koné de Georgetown University.
Il me semble que tout dépend de l'évolution de la situation. S'il s'agit d'une pneumonie et qui n'est pas grave et qu'elle se remet assez rapidement, il me semble que ça n'aura aucune incidence, n'est-ce pas, sur la campagne. Peut-être même que cette situation attirera à Mme Clinton certaines sympathies. On peut espérer cela, les démocrates peuvent espérer cela. Mais s'il s'agit d'une situation de santé un peu plus complexe qui traîne, cela peut être très ennuyeux et peut-être d'une certaine façon démoraliser les supporters de Mme Clinton. Donc il faut attendre pour voir si, par exemple, après cette semaine, elle se remet et vigoureusement entre en campagne. Je pense que les conséquences ne seront pas trop graves.
Donald Trump ne s'était pas privé récemment d'alimenter des rumeurs au sujet de la santé de Mme Clinton, mais le candidat républicain se refuse depuis hier à attaquer sa rivale démocrate sur sa maladie. Il lui a même souhaité un prompt rétablissement en vue des débats à venir. La campagne a-t-elle atteint un niveau un tant soit peu civilisé?
Bon, on ne peut pas dire cela parce que avec M. Trump, cela dépend des jours, des circonstances, du fait qu'il lit ce qui a été écrit ou alors du fait qu'il parle sans lire. Donc je ne sais pas si la campagne est plus civilisée maintenant. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a déjà fait allusion à plusieurs reprises à la santé de Mme Clinton. Et là, maintenant qu'elle a été réellement malade, n'est-ce pas, sa réaction est, disons, la réaction d'une personne plus normale, puisqu'il lui a souhaité bonne guérison. Il n'a pas fait des commentaires désagréables sur la situation. Mais je crois que là aussi, c'est le jeu politique. Il aurait été réellement malvenu pour M. Trump de saisir cette occasion pour faire avancer ses idées. À mon avis, ce comportement est calculé. Évidemment, tout est calculé en politique. Mais c'est un bon calcul qu'il a fait. Sans doute qu'on pensera qu'il est beaucoup plus responsable et il gagne à ce jeu-là plus qu'au jeu contraire.
Et d'ailleurs, d'après plusieurs médias, le Parti républicain a interdit à ses membres de commenter la santé de Mme Clinton sur les réseaux sociaux, par exemple.
Exactement, parce qu'ils savent que ce serait réellement de mauvais goût de parler de cette santé et d'essayer d'en profiter. Ce serait une arme à double tranchant. Bon, je crois que la meilleure pour les républicains, pour M. Trump, c'est de se montrer courtois, de respecter la santé de Mme Clinton à ce point-là et de lui souhaiter bonne guérison. C'est la bonne démarche à suivre, à mon avis.
Professeur Amadou Koné de Georgetown University, en ligne de Washington.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Georges Léonard Seigneau a dirigé la mise en onde. Présentation Morgane Gaillac et Gabi Dorsil.
On remercie M. Remkes à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.